Je voudrais, comme introduction, lire du prophète Ésaïe, le chapitre 52. Peut-être que nous commençons ici avec le verset 6. Puis-je demander qu'on se lève pour la lecture de la parole? Ésaïe 52, à partir du verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle et qui dit « Me voici ». Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du joyeux messager qui annonce le bonheur, qui annonce le bien comme joyeux message, et qui a le salut à proclamer, qui dit à Sion, ton Dieu a repris sa royauté. Écoutez, déjà vos sentinelles poussent des cris et se réjouissent, car elles voient avec joie les yeux dans les yeux, le retour de l'Éternel en Sion. Éclatez en une bruyante allégresse, ruine de Jérusalem, car l'Éternel réconforte son peuple. Il a racheté Jérusalem. L'Éternel a découvert son bras saint aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut qui vient de notre Dieu. Sortez, sortez, sortez de là. Ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'eux. Purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Car vous n'avez pas besoin de sortir avec une hâte effrayante ni d'errer dans une fuite précipitée. Car l'Éternel marche devant vous et le Dieu d'Israël est l'arrière de votre train. Prions. Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi, le Dieu d'Israël, tu es devenu notre Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te remercions pour ta sainte parole. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions de ce que par ton esprit, de manière puissante, tu agiras. Tu sais pourquoi nous t'exprimons nos requêtes et les différents besoins. Tu connais toutes les difficultés. Bien-aimé Seigneur, ensemble, nous te demandons que tu puisses venir parmi nous. Passe par nos rangs et pense toutes les blessures et console les affligés et laisse-nous voir yeux dans les yeux comment est-ce que tu reviens parmi ton peuple, comment est-ce que tu te manifestes et que tu bénis, comment est-ce que tu sauves, tu guéris et que tu baptises d'esprit et de feu, tu scelles pour le jour de la rédemption de notre corps. Bien-aimé Seigneur, nous voici, nous nous prosternons devant toi, car tu es saint et tu es encore saint au Seigneur. Tous les pays sont remplis de ta gloire. Pardonne-nous nos manquements et tout ce qui ne t'a pas plu en parole, en action, en pensée, que tu puisses l'ôter quitter de nous, que ces choses nous quittent et que dans cette heure, tu sois notre souverain sacrificateur. Tu l'es, oui, pas selon l'ordre de Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia! Tu es avec ton propre sang entré dans le sanctuaire céleste et tu as apporté ton sang sur le trône de la grâce. Et maintenant, ton sang parle pour nous, pour tous ceux qui ont reçu ta grâce, pour tous les rachetés, pour tous ceux que tu as affranchis et réconciliés. Que toute pensée de condamnation, de jugement, de déchirement, de reproche soit ôtée de nos cœurs, de nos pensées, de nos vies. Que, Seigneur, nous puissions pouvoir remettre, apporter tout à tes pieds et laisser tout là. Fais-nous bien selon ta grande grâce et ta grande miséricorde. Ô toi, grand Dieu, passe, Seigneur, parmi nous avec ta gloire et ta beauté, comme nous te sommes reconnaissants de ce que tu te sois révélé à nous. Tu nous as fait connaître ton nom et ta parole. Nous savons qui tu es. Le premier et le dernier, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Avant qu'Abraham fût, tu as été. Avant qu'Abraham fût, tu existais déjà. Nous te remettons cette réunion sous le sang de l'agneau et te demandons de tout notre cœur la conduite de ton Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont présents ou alors plus tard écouteront les cassettes soient conscients que c'est toi qui parles, que c'est toi qui as parlé avec nous tous. Accorde-nous ta grâce pour écouter, pour recevoir ta parole dans un bon cœur, la recevoir, la croire, la repasser dans nos cœurs et la garder. Nous te disons merci pour tout, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai cette intention à remettre de l'Angleterre, et cette fois-ci très particulièrement, des salutations particulières, cette fois-ci liées à une requête. Il y a un représentant de l'islam qui jusqu'à maintenant avait défié tous les orateurs de télévision concernant la divinité. Il prétend de la Bible, de l'Ancien Testament, qu'il y avait qu'un seul Dieu et qu'il ne peut qu'y avoir qu'un seul Dieu. Et tous ses représentants, et dit chrétien, là, et ça je le dis maintenant, à la honte de toute cette chrétienté, aucun ne pouvait fermer la bouche de cet homme. Et maintenant, il y a des gens qui viennent à moi et qui me disent, écoute, est-ce que tu ne serais pas la personne adéquate pour là apporter la chose, mettre les points sur les i? Et je leur ai dit, bon, si Dieu veut, je me tiens à votre disposition. Mais cela va durer un peu. C'est vraiment dans mon cœur. De l'Ancien Testament, montrer comment est-ce que Dieu lui-même s'est révélé et malgré tout est resté lui-même Dieu. Amen. Amen. Malgré sa manifestation visible, il est resté Dieu. Nous voulons entrer dans l'observation de la parole, car qu'est-ce qui serait plus important que de la parole reconnaître et connaître la volonté de Dieu, comme le frère Muller justement venait de dire. Cela devrait à chaque fois être une requête de notre cœur. Depuis le commencement, prendre part, suivre, donc à chaque réunion, dès le début, suivre, être là et pas à la fin, mais dès le début, recevoir Satan déjà à la bénédiction de Dieu. Vous savez, en fait, c'est une habitude dans les églises et les congrégations. On attend que le spirituel, comme on les appelle, à la fin, donc, prononce la bénédiction. Mais pendant la réunion, mais non. Mais dans les réunions des saints, nous n'attendons pas que quelqu'un prononce une bénédiction. Nous attendons que Dieu nous bénisse, et cela sous le coup de sa parole. Car notre bénédiction ne vient pas de celui qui fait trois croix et prononce une bénédiction de sa bouche. Notre bénédiction vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Du Dieu d'Abraham qui a parlé à Abraham et qui a dit « Je te bénirai et tu seras une bénédiction ». Que vous le croyez ou pas, nous sommes les bénis du Seigneur, les bénis de l'Éternel. Et maintenant arrive. Nous pensons là à nos épreuves, n'est-ce pas, et à plusieurs difficultés qui ne nous plaisent pas, que nous rencontrons. Ensuite, suit la question. Oui, mais est-ce que nous sommes vraiment les bénis de l'Éternel? Pourquoi est-ce que alors tout cela nous est arrivé? Et pourquoi est-ce que cela aussi devait nous arriver? Pourquoi est-ce que maintenant cela est ainsi et pas autrement? S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous entrons dans la parole pour nous montrer, pour voir que tous les enfants de Dieu, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, n'ont pas vécu dans des roses, dans des fleurs, et n'ont pas cherché leur chemin, mais qu'ils devaient passer par des chemins épineux et pierreux, mais que le Seigneur était leur but, était leur chemin, était leur vérité, était leur vie. Et c'est ainsi que nous, et c'est ainsi que, avec sa force et son soutien, ils ont pu surmonter tout. Et c'est ainsi qu'ils appartiendront à la troupe des vainqueurs. Ils compteront à la troupe des vainqueurs. Ne regardez pas à vous-même. Ne regardez pas, n'est-ce pas, aux multiples épreuves, aux difficultés, aux chemins, aux problèmes, que ce soit corporel ou spirituel. Mais regardez au Seigneur, car c'est lui qui fera toutes choses bien et conduira toutes choses de manière glorieuse. Qu'est-ce que on le dit souvent dans le peuple? Quand la fin est bien, tout va bien. Et Jacques écrit au chapitre 5, regardez à leur fin et suivez leur foi, imitez leur foi. Donc regardez à leur fin en pensant au prophète. Et là, nous pensons justement au prophète et à ceux dont il est question. Et notre Seigneur dit, où aurait été un prophète que vous n'aurez pas persécuté? Un envoyé de Dieu que vous n'ayez pas persécuté? Il devait passer par des chemins épineux, mais il portait une semence précieuse dans leur cœur. Et si nous, aujourd'hui, nous portons dans nos cœurs cette semence précieuse de la parole infaillible et la parole sans alternance et falsification, alors nous avons à passer par les mêmes chemins et à porter sur nous les mêmes difficultés et souffrances et de ne pas être compris et de sortir au-delà du camp et porter l'opprobre du Christ. Qu'est-ce que Jésus, notre Seigneur, disait? Je n'accepte pas l'honneur des hommes, mais vous ne cherchez pas l'honneur, la gloire qui vient du seul vrai Dieu, mais vous acceptez de l'honneur les uns des autres. Il y en a à qui il s'agit de faire ce qui honore Dieu. En venant ici, nous sommes passés par un chemin, par un paysage très beau, par l'Autriche et la Suisse. J'ai dû penser à une prédication de Frère Branham avec le titre Dieu dans l'univers, Dieu en Christ et Dieu dans son peuple. Et cette pensée m'est venue quand nous regardons dans la création. Alors nous voyons encore aujourd'hui comment est-ce que l'ordre divin existe et comment est-ce que Dieu l'a fixé déjà autrefois. Il disait que tout produise selon son espèce, des semences, des plantes, des fruits avec leurs semences, et que la vie soit en eux et que cela se multiplie, etc. Encore aujourd'hui, tout est comme Dieu l'a fixé dans tout l'univers, dans toute la création, comme le Créateur l'a ordonné. Il n'y a eu encore personne qui aurait pu apporter des améliorations et des propositions. Il y avait ceux qui, maintenant comprennent que l'homme est en train de détruire l'harmonie précieuse et merveilleuse de la création et de l'univers. Mais que Dieu soit remercié pour la promesse merveilleuse de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle la justice habitera. Et il est écrit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons non plus pas de problème avec cette prédication à trois titres. Dieu dans l'univers, Dieu en Christ et Dieu dans son peuple. Dieu, nous n'avons pas le problème de voir Dieu en Christ. Car il pouvait dire, si vous ne croyez pas que je le suis, croyez à cause des œuvres, car il rend témoignage de moi. Ça, c'était une expression claire, une citation, une déclaration claire. Nous pouvons la lire dans l'évangile de Jean, aussi le chapitre 14, au verset 12, clairement, verset 10. Et je pense aussi à cette parole merveilleuse qui devrait nous faire passer à ce sujet, c'est-à-dire du deuxième titre de ce sujet au troisième titre, donc de Dieu en Christ à Dieu dans son peuple, dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 9. De Christ ici, il est dit, verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et en lui, vous possédez toute la plénitude, en celui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La plupart s'arrêtent au verset 9 dans la lecture, sont heureux de ce que Dieu en Christ s'est manifesté, s'est révélé, et que Dieu était en Christ. Et oui, que toute la plénitude de la divinité a habité corporellement ici sur cette terre, a été manifesté corporellement ici sur cette terre, et cela en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais si avec cela un objectif divin n'avait pas été lié pour nous inclure en fait à cette révélation, cela ne nous aurait servi à rien. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait à cause de nous. Nous sommes la chose principale aux yeux de Dieu. Une question. Pourquoi est-ce que Dieu est devenu homme? Seulement parce qu'il voulait devenir homme? Non. C'était à cause de l'homme, pour sauver l'homme, racheter l'homme, ramener l'homme et toute l'humanité. Hier à Salzbourg, j'ai utilisé cette parole, mais alors cette expression. Dieu s'est humanisé, est devenu homme pour pouvoir nous diviniser, nous faire participer à sa divinité. Il a pris une forme de serviteur pour que nous qui étions livrés à la servitude, nous soyons transformés à son image et devenir des fils et des filles de Dieu. Et sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Pas que nous allons le devenir, nous le sommes devenus. La seule chose qui reste, c'est le changement de notre corps mortel. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui reste. Mais ta rédemption et ma rédemption, ton pardon et mon pardon, la vie éternelle et d'être devenu enfant de Dieu. La grâce et le salut nous a été déjà accordé. Nous pouvons nous en réjouir déjà et nous en louer. Revenons maintenant à ce point, à ce sujet principal ici, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est merveilleux, c'est glorieux. Nous disons oui et amen. Nous voyons Dieu dans la création, sans question, c'est clair. Nous disons comme tu es grand, comme tu es grand, comme glorieux, de manière glorieuse, tu as créé toutes choses. Nous regardons en Christ, à Christ, et nous voyons qu'en lui, toute la plénitude de la divinité, corporellement, dans un corps, dans une forme humaine ici, a été manifestée sur terre, corporellement. Maintenant, sur le verset 10. Et en lui, vous possédez toute la plénitude en celui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous pouvez dire amen à cela? Colossiens 2, verset 10. Regardez, bien mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'hésiter à croire cela. Nous devons simplement nous représenter un point devant les yeux, de donner toujours raison à Dieu dans ce qu'il nous dit par sa parole. Et de placer le diable toujours comme menteur dans tout ce qu'il dit. Avons-nous compris cela? Nous devons toujours donner raison à Dieu, même si nos yeux voient autre chose et nos oreilles entendent autre chose. Nous devons toujours nous mettre du côté de Dieu. Qu'est-ce que c'était avec Abraham? Abraham est devenu toujours plus faible. Hein? Bon, selon le corps, mais selon l'esprit, il devenait toujours plus fort. Il était toujours plus fortifié. Et nous comprenons de quoi il s'agissait. Abraham voyait son corps vieillir, mais il ne restait pas à ce que ses yeux lui montraient. Mais il regardait à l'invisible, comme s'il le voyait. Et ce qui n'était pas encore existant, il l'a considéré comme déjà être existant, parce qu'il a cru ce que Dieu avait dit. Abraham avait la foi de Dieu. Il parlait de choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient déjà. Et nous sommes la foi, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes la foi d'Abraham. Quand nous regardons à notre corps, n'est-ce pas? Nous pourrons dire, oh, les choses ne sont pas pour nous comme la parole le dit, hein? Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est une constatation tout à fait naturelle. Mais nous ne restons pas à cette constatation. Nous faisons un deuxième pas et regardons au Seigneur qui a été meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Notre condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est la foi, le pas de la foi, le chemin de la foi que nous devons entreprendre, suivre. Il n'y a pas un autre chemin pour nous. Nous allons maintenant considérer plusieurs écritures et je sais à l'avance que elles seront une grande bénédiction pour vous. Ils seront, ces versets bibliques, ils seront. Hébreux chapitre 2. Et je lis, pour nous consoler tous, pour nous réconforter, pour nous édifier, pour nous faire du bien. Hébreux chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 9. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout sous ses pieds. Car en mettant tout sous lui, il n'a rien exempté de la soumission à lui. Mais ça continue encore. Il n'a rien exempté de la soumission à lui. Jusqu'à présent, cependant, nous ne percevons pas que toutes choses, que toutes les choses lui sont soumises. Mais nous voyons celui qui pour un peu de temps a été abaissé au-dessous des anges, Jésus lui-même, couronné de gloire et d'honneur à cause de ses souffrances, dans la mort. Car par la grâce de Dieu, il devait goûter la mort pour tous. Comme c'est merveilleux, ici, l'écrivain a distingué les choses et reparti les choses. Tout lui a été mis sous ses pieds. Et rien n'a été exempté à la soumission à lui. Par la mort, par le diable, par l'enfer, rien n'est exempté. Tout lui est soumis sous ses pieds. Et ici, l'écrivain, sûrement Paul, nous montre le plan du temps de Dieu dans le temps. Et avec ce plan de Dieu dans le temps, peu de croyants le comprennent. Pour eux, au moment où Jésus, le troisième jour, fut ressuscité, la mort ne devait plus exister. Devait être passée. La mort est vaincue. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Mais c'est au jugement dernier que la mort et le royaume des morts seront jetés dans l'étang de feu, comme déjà hier, ou bien alors aujourd'hui. Mais alors nous constatons que Dieu a une répartition dans le temps de son plan. Combien croient que Jésus-Christ était la semence qui est venue par la femme selon la promesse, Genèse chapitre 3, verset 15. Qui croit ça? Que la semence de la femme devait venir pour briser la tête du serpent. Il t'écrasera la tête et tu le piquera au talon. Qui croit que cela s'est accompli? Ça, je le crois. Amen. Je le crois. Amen. Cela est accompli. Et laissez-moi ici pour ne pas vous retenir en haleine plus longtemps. Pour un enfant de Dieu, la mort n'existe pas comme quelque chose de cruel. Pas du tout. La mort comme séparation n'est plus là. Si la mort existerait pour nous comme pour nous servir, ce serait simplement pour faire en sorte que, d'une manière très élégante, nous passions du temps à l'éternité, sinon rien d'autre. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Tout est soumis au Seigneur, comme nous l'avons lu. Vous savez, la mort veut dire séparation. Et pour nous, il n'y a pas de séparation. Pour nous, seulement par la mort de celui qui est mort à notre place. C'est la réconciliation avec Dieu qui est pour nous. Il a ôté la séparation. Il a ôté le mur de séparation, l'inimitié. Il a effacé et déchiré l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient. Et il nous a accordé la grâce et il nous a manifesté pour nous le salut en tous ceux et pour tous ceux qui croient en lui et qui par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption, nous sommes aussi justifiés. Cela est exprimé clairement. Jusqu'à maintenant, la deuxième partie du verset 8, Hébreux 2. Jusqu'à présent, cependant, nous ne percevons pas que toutes choses lui sont soumises. Mais le jour arrive, vous pouvez le lire dans Hébreux 1. Quand pour la deuxième fois il viendra, tous les anges de Dieu le loueront, le serviront. Et toute langue confessera que il est le Seigneur. Nous voulons lire une parole en ce qui concerne la mort et l'enfer. seulement en relation en ce que, donc, à qui est-ce que cela s'applique? Pas à nous qui sommes croyants. Pas à nous qui sommes croyants. Nous n'avons rien à faire avec leur mort et l'enfer. Nous avons affaire au salut et à la béatitude et à la félicité et au ciel. Mais dans Apocalypse, au chapitre 6, à partir du verset 7, faisant référence au quatrième sceau, ici il est écrit, Apocalypse 6 au verset 7, et si vous savez ce qui est exposé ici, j'espère que tous ont lu les sept sceaux. Ici, l'Antichrist, dans ses quatre développements, est décrit tel que frère Branham, comme ainsi dit le Seigneur, de manière contraignante, il a reçu révélé par Dieu. Il y a beaucoup d'interprétations ici qui parfois qui égarent. Et ici il est écrit, et voici paru un cheval blanc. Alors il pense, c'est une chose juste, ça sûrement. Sa justification, c'est sûrement positif. Mais que cette chose a commencé insignifiante, sans qu'on le remarque, les hommes n'ont pas compris. Il était nécessaire qu'un prophète vienne à qui la parole de Dieu soit adressée. Et je me rappelle comment est-ce que dans la prédication, cela est enregistré et à entendre clairement sur les bandes magnétiques, comment est-ce que frère Branham dit, un peu allégé, « Oh, moi aussi, jusqu'à aujourd'hui, je l'avais vu différemment. Mais aujourd'hui, cela m'a été révélé à peu près vers 14 heures l'après-midi. Qui est ce chevalier? Et quand ensuite il dit, j'avais fermé tous les rideaux, c'était obscur dans la chambre, dans la pièce, j'avais qu'une lumière allumée et subitement la colonne de feu est entrée dans la pièce. La lumière surnaturelle est entrée dans la pièce. Et là, c'est là que cela m'a été révélé. Et ça, je le crois. Aussi vrai que Dieu vit. Aussi vrai que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aussi vrai que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Que vrai Branham était un homme envoyé de Dieu pour nous apporter le message divin. Et soyez sincères. Qui ne tomberait pas, n'est-ce pas, dans le piège de ces gestes gentils de l'Antichrist? Encore aujourd'hui, habillé en blanc de la tête jusqu'aux pieds, et partout, et il est reçu vraiment avec tout l'honneur, le tapis rouge est déroulé. Mais où est-ce qu'il roule? Où est-ce qu'il est déroulé? Il roule vers où? Non, nous ne regardons pas à ce qui aveugle les autres hommes, nous regardons à ce que Dieu a révélé dans ces derniers jours. Et que je puisse le dire ici aujourd'hui clairement. Tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre immolé de l'agneau avant même la fondation du monde adoreront l'Antichrist. Ils vont devoir le faire. Et ils diront, oh, un tel homme gentil, une telle gentillesse n'a jamais existé sur terre. Tout ce qui peut rire, vous comprenez ça, je le comprends très bien. Parce qu'il pense en lui-même, ah mais vous, je vous ai déjà eu, je vous ai déjà tous séduit. Vous comprenez? C'est peut-être quelqu'un qui peut, il peut sourire, ça c'est clair pour nous tous. Mais le message de Dieu, et ça aussi je voudrais le mettre en lumière. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je le dis d'une obligation divine. Seulement, celui qui, par révélation, reconnaît la révélation de Jésus-Christ, c'est celui-là seulement qui aussi, par révélation, pourra discerner ce que Satan fait par l'Antichrist. Tous les autres ne pourront pas le discerner. Et là, nous venons au dernier cheval. Il n'est plus blanc, il n'est plus roux, il n'est plus noir. Là, toutes les trois premières couleurs ont été rassemblées, mélangées dans un seul pot. Et là, il est chevauché sur le dernier tronçon. Il ne vient pas avec des cornes. Il ne vient pas noir. roux ou bien blanc, il a le dialogue ici, il dialogue là-bas. Il parle avec tout le monde. Et celui qui un peu a des informations de l'intérieur, comment est-ce que toutes les délégations, que ce soit juif, que ce soit islamique, que ce soit bouddhiste, que ce soit hindouiste, toutes les délégations entrent et sortent du Vatican. Et tous vont à lui. Et alors il peut même seulement, pour finir, se courber, n'est-ce pas, et celui qui a vu la photo, avec il ne touche pas le sol avec sa bouche, mais avec son front. Il se prosterne jusqu'à son front à terre. On peut bien remarquer les photos. Mais le peuple de Dieu a la vue d'ensemble et a reçu la révélation de ces choses. Vous savez quoi? Nous nous tenons seuls et abandonnés et solitaires là. Abandonnés de toutes les autres congrégations et soi-disant églises et incompris. Croyez-vous cela oui ou pas? Dites-moi, qui vous comprend? Avec qui est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de ces choses aujourd'hui? Dites-moi. Il y a des grands pentecôtistes ici, comme déjà du temps de Frère Branham. Il y avait quelqu'un appelé grand docteur de la Bible qui disait, on parlait de l'Antichrist, « Oh, ce grand homme fort sera grand comme jusqu'à dans les nuages, et ce sera une figure, et c'est comme quelque chose qu'on pourra pomper, ensuite on va lui donner une piqûre, et alors il va faire un pas, un seul pas sera comme un immeuble. » Et le monde entier regardera à lui. Alors Frère Branham a dit, avec cœur déchiré et brisé, comment est-ce qu'un tel homme, qui prétend être docteur de la Bible, peut le prétendre, ou bien encore même prétendre avoir reçu et avoir le Saint-Esprit? Aujourd'hui, on cherche l'Antichrist chez Khomeini, et en Israël, on le cherche partout, mais pas là où il est. Je n'en peux rien. Ces choses doivent se passer ainsi jusqu'à la fin. Et doivent rester à l'ordre du jour. Vous allez me dire, mais c'est vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment d'une grande signification de reconnaître l'Antichrist? Mais bien sûr, celui qui ne tire pas ici une lignée claire et pense ici charnellement, il va glisser dans ce système. Et vous savez, comme une fois, vous savez qui a pensé charnellement dans Matthieu 16, directement après que le Seigneur ait dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Directement après cela, le Seigneur dit, le Fils de l'homme devra souffrir et être livré entre les mains des pécheurs. Et déjà, Pierre a dit non, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Satan, arrière de moi, car ce que tu as dit est humain et ne vient pas de Dieu. Vous pouvez tous lire dans Matthieu 16, maintenant ou bien à la maison. Qu'est-ce que c'était? Une réflexion humaine. Ne t'abandonne pas à ton intelligence, dit le proverbe. Quand il s'agit des choses spirituelles, des choses divines, ne t'abandonne pas à ton intelligence, à ta propre intelligence, à ta réflexion. Laisse la sagesse de Dieu avoir le dernier mot. Et la connaissance divine, c'est-à-dire par la révélation, pas par creuser et faire des recherches, mais par la quête qui nous est accordée par la révélation, la connaissance divine de Jésus-Christ, par révélation de la parole et de l'esprit. Et la même chose est aussi avec la parole de Dieu. Alors quelqu'un pensera, mais qu'est-ce que c'était avec ces gens dans le passé? Lisez ce que Zwingli, ce que Calvin, ce que Schwenksfeld, ce que Luther, dans leur époque, avaient comme des yeux oints. Ils savaient où était où l'Antichrist avait son siège. Ils le savaient. Et maintenant, je me répète encore une fois. Ils ont été désignés comme une secte parce qu'ils se sont détachés de cette direction que tout le monde suivait. Et là où elles mènent, on ne veut pas entrer dans le détail ici, mais elles ne mènent pas vers le haut. Elles ne montent pas vers le haut. Vers le haut mène seulement la direction divine, pas une autre. Et c'était autrefois la question. Personne est monté au ciel en dehors du Fils de l'homme qui est au ciel. Et il disait que Marie est aussi montée au ciel. Moi, je ne sais pas où. Le Seigneur dit que personne n'est monté au ciel. Donc, c'est personne. Et avec cela, tout est réglé. Alors, aucun homme a le droit de dire le contraire et de contredire Dieu. Et là, je pense aux paroles de Luther qui disait l'Antichrist ne s'élève pas au-dessus du Dieu qui est esprit et qui est au ciel assis sur le trône. L'Antichrist s'élève au-dessus du Dieu écrit, du Dieu révélé dans la chair, donc au-dessus de la parole qui est devenue chair. Et là, il ajoute cette phrase. Et il dit, il pense pouvoir juger tous, mais ne se laisse juger par personne. Il n'y a qu'un seul tribunal que détient Dieu, et un seul livre, celui utilisé lors du tribunal, en ce qui concerne le grand public, pas la vie de l'individu, mais l'administration de la justice. Il n'y a toujours qu'un seul livre qui est ouvert. Mais revenons à ce point, laissons l'Antichrist et les choses pour lesquelles il est déterminé de faire, mais laissons aussi notre Seigneur élevé, faire ce qu'il s'est proposé de faire dans ces jours, dans ces derniers jours, dans son Église. Et celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ici, dans le quatrième sceau, Apocalypse 6, à partir du verset 7, il est écrit, « Puis lorsque l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant crier à haute voix, « Viens !» Je regardais et voici un cheval pâle, en parenthèse en allemand, de la couleur d'un cadavre. La chose est morte. Un cheval pâle de la couleur d'un cadavre. Celui qui le montait s'appelait la mort. Et le royaume, ou bien, et l'enfer, ou bien alors le royaume des morts, formait sa suite. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre. Pour faire périr par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Cela aura lieu pendant la grande tribulation où toutes ces choses trouveront leur accomplissement. Pour moi, il s'agissait seulement de la mort. Nous disons la mort est vaincue. La mort est vaincue. Et alors, nous voyons que la mort est encore là et qu'elle règne encore. Mais laissez-moi une fois dire cela en insistant. La mort est pour le croyant pas une séparation de Dieu, d'avec Dieu. Ce n'est pas la chose cruelle, la chose mauvaise pour le croyant. La mort n'a qu'un devoir pour le croyant, pour laisser la vie libre qui va à sa fin, pour que nous puissions passer au Seigneur, aller au Seigneur. Laissez-moi lire dans Hébreux, de la même manière, du chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Hébreux, chapitre 2, verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Hébreux 2, verset 14, il a aussi reçu une part égale à la leur, afin de détruire par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, afin de libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tenus en esclavage toute leur vie. Un croyant n'est plus dans l'esclavage, n'est plus dans la crainte devant la mort. Un croyant sait que la mort est vaincue et que l'enfer est vaincu. Notre but, ce n'est ni la mort ni l'enfer. Notre but, c'est, comme le Seigneur disait, celui qui croit en moi et qui vivra même s'il meurt. Crois tout cela, vivra même s'il meurt. Et là, il y avait le deuil. Martha et Marie se plaignaient et pleuraient et se lamentaient. Et il y avait des femmes pleurantes qui s'étaient ajoutées à elles. Et il y a des régions où c'est la cite, que c'est une habitude quand quelqu'un meurt. Les femmes viennent, elles viennent des femmes pour pleurer. Elles viennent, c'est pour pleurer. Et alors elles pleurent, elles se lamentent des larmes. Mais ne me dites pas comment. Je l'ai vécu une seule fois. Je ne veux pas le vivre deux fois. Je ne savais pas. Je ne dis pas volontairement où c'était, mais je ne savais pas ce qui se passait. Une telle lamentation amère, je ne l'ai jamais vue de toute ma vie. Et quand l'autre n'était pas enroué, c'était l'autre qui toussait et qui pleurait et qui se lamentait et qui criait. Et c'était des cris jusqu'au matin. J'étais fatigué par la prédication. J'étais pendant un voyage missionnaire dans les pays africains. Et j'ai eu besoin de dormir. Et quand le matin, le frère me demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il y avait un cas de mort. J'ai dit, moi, je ne demande pas à cause de la mort, je demande, mais à cause de la lamentation. Et il m'a dit, mais ça, c'était pas. Il m'a dit, mais c'est comme ça. Et l'habitude chez nous, on appelle des femmes pour pleurer. Et regardez ici, Marthe et Marie, et il y avait des femmes qui pleuraient. Et alors le Seigneur vint. Et il a mis fin à toute cette lamentation. Et il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et alors, ils ont regardé. Et Martha disait, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Ça, c'était au Seigneur trop, n'est-ce pas? Il a demandé, mais où est-ce que vous l'avez mis? Et le deuxième commandement a été déroulé la pierre, etc. Et Martha disait, mais il sent déjà, il a déjà une odeur. Parfois, Dieu permet des choses arriver à un tel point où le dernier espoir est passé. Oui ou pas, n'est-ce pas? Parfois, il permet des choses. Et subitement, il a dit, et encore maintenant, je sais. Quoi que tu dises, cela, Dieu le fera, cela aura lieu. Et il a dit, Lazare, sors! Et cela a eu lieu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les croyants? Le croyant vit, même s'il meurt. Il vit. Qu'est-ce qu'on a entendu du frère Branham? Alors qu'il avait été pris au paradis. Et la doctrine des adventistes du septième jour, qui croient au sommeil de l'âme, ils croient que l'homme meurt et ensuite il n'entend rien, il ne voit rien jusqu'à qu'on le réveille. Non, et encore une fois, non. Notre Seigneur a dit déjà au meurtrier sur la croix, en vérité, je te le dis, aujourd'hui encore, tu seras avec moi au paradis. Oh, comme c'est glorieux de ce que nous ne sommes pas obligés de croire à un enseignement. Mais nous devons croire Dieu. Cela de tout notre cœur, du fond de notre cœur. Donner raison à Dieu librement, en toutes choses. Nous sommes libres de le faire. Nous sommes obligés à rien d'autre. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas exister un paradis? Pourquoi est-ce qu'il devra exister un paradis si personne y vit? Si personne y vit, non. Dieu sait ce qu'il fait et dit ce qu'il dit. Vous voyez, ici, on a lu qu'il a détruit par sa mort celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, ça, nous le savons tous. On a lu dans Hébreux 2, verset 14. Nous savons tous que le diable est encore libre. Et vous savez qui est-ce qu'il attaque directement? Les croyants. Les croyants. Et je vais vous dire aussi maintenant, en raison de la parole de Dieu, sur quels croyants? Pas sur les croyants à moitié. Pas sur ceux qui croient ce qu'ils veulent croire. Je vais vous lire ce qui est écrit dans la Bible. Luc, chapitre 22, versets 31 et 32. Simon, Simon, sachez ceci. Satan a demandé à avoir du pouvoir sur vous. Maintenant arrive. Satan a demandé à avoir du pouvoir sur vous, à vous cribler comme on crible le blé. Sur qui? Il vient? À qui est-ce qu'il a demandé le pouvoir de pouvoir le faire? Au blé, pas les autres. Mais à ceux qui sont du blé, il laisse les autres partir avec leurs trompettes et leurs danses, il les accompagne avec des fanfares. Mais ici, il veut cibler le blé. Il demande à vous cribler comme on crible le blé, pas la paille. Il y a un blé. Jésus était le grain de blé. Et il disait que si le grain de blé ne tombe pas au sol, à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe à terre et meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Alors qui sera criblé et qui sera remué à droite et à gauche? Sur qui est-ce qu'il frappe? Pas sur la paille, pas sur ce qui a une ressemblance de blé ou bien sur les mauvaises herbes. Non, je le répète encore une fois. Simon, sachez ceci. Satan a demandé à avoir du pouvoir sur qui? Sur vous. À vous cribler. Pas à vous dominer. Pas à vous diriger. Pas à vous inspirer. Pas à vous conduire par le nez. Mais pourquoi? Pour une seule chose. Pour vous cribler comme on crible le blé. Vous savez comment c'est exactement? Comment c'était en Orient? Il y avait une belle agitation avec le fléau. Et le vent faisait en sorte que la paille prenne la direction du vent selon que le vent soufflait. Dans quelle direction? Mais le blé restait dans le fléau. Il a été frappé pour qu'il puisse être détaché de l'enveloppe et rester seul comme blé pur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme Paul l'écrit, comme Pierre l'écrit, ne trouvez pas étrange d'être sous la fournaise, dans la fournaise de l'épreuve. Ça doit être ainsi. Ah donc, aussi cette écriture, on doit exactement les lire et ne pas les utiliser les unes contre les autres, mais les comparer les unes avec les autres. Et pour que Satan ne puisse pas s'en servir, je vais vous lire un passage qui, dans un premier temps, est assez différent de celui que nous venons de lire. J'utilise seulement qu'un seul, Matthieu 10, verset 1. Il appela alors ses 12 disciples et leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de sorte qu'ils pouvaient les chasser et guérir toute maladie et toute infirmité. Ici, il est parlé de ce que le Seigneur a donné aux siens, le pouvoir sur le pouvoir de Satan, et je suis reconnaissant de ce que dans les deux versets, il est exactement énuméré de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que quand les disciples autrefois étaient restés et disaient, Seigneur, en ton nom, aussi les mauvais esprits, les esprits impurs nous sont soumis. Et vous pouvez lire dans Luc chapitre 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je sache les démons, etc., etc., alors le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas. Non, peut-être que je vais lire d'abord le chapitre 10. Luc, chapitre 10, et ici, à partir du verset 17. Les 70, donc Luc 10, verset 17, les 70 revinrent pleins de joie, disant, Seigneur, même les esprits nous obéissent par la puissance de ton nom. Et qu'est-ce que Jésus dit au verset 18? Par la puissance de ton nom. Au verset 18. Puis il répondit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agissait? Cela a eu lieu. Mais même l'ennemi vaincu, sur lequel Dieu nous a donné tout pouvoir, a encore qu'un seul devoir qu'il a reçu, c'est-à-dire de nous cribler, vraiment de nous frapper. Je vais vous dire encore une fois, pas pour nous conduire par le nez, pas pour nous interpréter la parole autrement qu'elle soit qu'elle est écrite, pas pour, à cause de toutes les autres choses, ou bien nous dominer, non, une seule chose, c'est nous cribler, comme le blé est criblé, pas pour une autre chose. Et si il le peut et que Dieu lui permet de le faire, qu'il le fasse. Ce sera ça servir à notre bien. Vous savez, Paul avait demandé parce que le diable, je crois, ne l'avait pas seulement un peu de manière élégante traité, mais le frappait avec des coups. L'apôtre Paul, à tel point que Paul a pu dire, « Seigneur, je ne peux plus. Je ne sais plus. L'aiguillon est entré dans ma chair. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus me tenir. Je ne peux plus m'asseoir. Je ne peux plus vivre. Ça ne va plus, Seigneur. Ça ne va plus. » Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? « Que ma grâce te suffise, car ma puissance est manifestée dans les faibles. » Mais bien-aimés, j'espère que c'est une consolation pour vous. Quand dans la famille, il y a des coups, dans le couple, dans le foyer, il y a des coups au travail, et que le porte-monnaie aussi souffre, quoi que ce soit, on est frappé de partout. Pensez à Job. Qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Est-ce que vous voulez que je vous lise? Il y a de son temps pas eu un tel homme qui craignait Dieu comme lui et qui marche avec Dieu comme lui. Et dans Job 2, les enfants de Dieu s'étaient rassemblés dans la gloire. Il a dit les fils de Dieu. Les fils de Dieu et Satan a apparu parmi eux. Au verset 3, 2, 3. Donc, Job 2, verset 6. Alors l'Éternel dit à Satan, qu'il sera livré en ton pouvoir. Tu n'épargneras que sa vie. Imaginez-vous. Représentez-vous cela. Tenez-vous compte. Rendez-vous compte de cela. Frère Branham dit que Dieu avait une telle confiance en Job. Et il savait qu'il servira à Dieu. Qu'il soit riche ou pauvre. Qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit malade. Qu'il vive ou qu'il meure. Il servira Dieu. Dans les bons jours. Oui, qui ne peut pas servir Dieu alors? Quand tout va bien. Hein? C'est très bien, n'est-ce pas? Non. Lisons ici. Satan disait, tu l'entoures. Je ne peux rien faire. Je n'ai aucun accès en lui. Je ne peux lui faire aucun mal. Il est béni, etc. Tu le protèges. Mais laisse-le-moi entre mes mains pour un temps et tu verras quelle réaction il aura. Et Dieu savait qu'il pouvait faire confiance à son Job. Et il a dit, bon, bien, il sera livré entre ton pouvoir. Fais avec lui ce que tu veux, mais épargne sa vie. Et quand cela arrive, alors un coup arrive l'un après l'autre. Quand Satan frappe, alors pas une seule fois. Vous connaissez tous cette expression « message de Job ». Alors, un message de Job, une nouvelle de Job suit l'une après l'autre. Et subitement, tout va de travers. Ici, un coup, ici, un malheur, l'un après l'autre dans sa vie. Et c'est justement le signe que Dieu est avec vous et que Satan, il lui a été seulement permis de vous donner une épreuve. Heureux ceux qui réussissent les épreuves et restent fidèles. Et à cause du temps court, je vais seulement vous donner les deux passages. L'un de la vie de David. Vous pouvez le lire dans 1 Chronique chapitre 21. Là, il est écrit. Mais Satan se leva contre Israël, se mit en colère contre Israël et persuada David de recenser les Israélites. Satan était en colère, se leva contre Israël et il a pris cet homme qui était conducteur d'Israël. Et comment c'était? 75 000 sont morts. 75 000 sont morts. Et qu'est-ce que nous disons après? David, je crois qu'il devait demander David devait demander trois choses. Et je crois qu'il a choisi la meilleure que Dieu pouvait lui accorder. Et Dieu a béni nouvellement. Et cela ne lui a même pas été imputé. Mais Saül, qui lui n'était pas choisi de Dieu, qui seulement était choisi par les hommes, qui avait été établi par les hommes, là où il se tenait. C'était les hommes qu'il avait choisi. Seulement une petite désobéissance qu'il a commise, il devait, n'est-ce pas, détruire tous, hommes comme bêtes, comme animaux, et il a laissé les animaux, le bétail, pardon, et ainsi, il n'a pas exactement exécuté la volonté du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Lui, Dieu, lui a imputé ça. Et là, je pense à Romains 4. Je ne peux pas faire autre chose que de penser à la béatitude que David a exprimée en esprit. Béni l'homme à qui Dieu a pardonné les péchés et qui n'impute pas les fautes. Il y a des hommes sur terre qui sont en Christ avant même la fondation du monde, élus de Dieu. Dieu ne peut pas leur imputer ça. Tout est dans, déjà payé dans la grande facture de Dieu, a déjà été payé sur la croix à Golgotha dans la grande facture de Dieu. Alors, quand l'ennemi frappe quelque part, que ce soit, ne soyez pas triste, bien au contraire, commencez à remercier le Seigneur, réjouissez-vous, car ça c'est un bon signe, c'est-à-dire que vous êtes des blés, vous êtes du blé, et que la paille doit être justement séparée du blé que vous êtes. Les autres, le diable les a de toute manière. Donc les épreuves servent à ce que ce qui ne plaît pas à Dieu soit ôté de nous. Mais donc, Dieu lui permet de frapper les vrais croyants et de les laisser passer par des épreuves pour qu'ils puissent être éprouvés et trouvés purs comme de l'or. Alors nous pourrons avec reconnaissance regarder en arrière et dire, Seigneur, tout a servi à mon bien. Ça m'a rapproché de toi. Tu as été avec moi. Ta houlette et ton bâton m'ont rassuré et ont été ma consolation. Comme dans le psaume 23. Comme David disait, les eaux étaient jusqu'à mon cou. Qu'est-ce que c'était? Pensons aux autres qui ont à passer par les épreuves. Mais Dieu était avec eux. Et il sera aussi avec vous. Avec nous. Que ce soit des épreuves. Que ce soit Satan. Que ce soit la mort. Que ce soit le diable. Que ce soit l'enfer. Tout est déjà payé dans la grande facture de Dieu. Quoi qu'arrive, doit d'abord passer par le Seigneur. Il ne permettra pas quelque chose qui ne servira pas à notre bien et à notre salut et à notre bénédiction. Comme déjà dit, Satan n'a aucun droit de conduire des véritables enfants de Dieu par le nez. Il n'a aucun droit de nous conduire dans des déviations et dans des fausses doctrines et des interprétations. Il y a une seule chose qu'il a demandé, c'est de nous frapper, c'est de nous cribler. Et si Dieu lui a permis qu'il frappe et qu'il crible, alors nous ne voulons pas nous plaindre. Je sais que nous sommes des hommes et les choses ne vont pas différemment pour moi. Mais dès aujourd'hui, nous voulons remercier le Seigneur. En lui, qu'est-ce qui est écrit dans Hébreux? Vous savez que les mêmes épreuves sont venues sur tous comme ils sont venus sur vous. Ou bien dans 1 Pierre 5. Qui me disait lors de ce voyage, je préférerais être frappé et être auprès du Seigneur que rester sans correction et louper l'enlèvement. Quoi qu'il arrive, nous voulons de tout notre cœur remercier le Seigneur. Il sait pourquoi il permet certaines choses. Résumons. Dieu dans la création est reconnu. Ça porte du fruit. Ça produit selon son espèce. Tel que Dieu l'a ordonné. Ensuite, Dieu en Christ, c'est aussi reconnaissable. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Et ensuite, il nous a donné le service de la réconciliation pour que, comme ambassadeurs de Christ, nous puissions dire, comme messagers de Christ, nous puissions dire, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation a eu lieu, est accomplie, mais vous devez l'accepter, la recevoir. La rédemption a eu lieu, est accomplie, mais vous devez la recevoir. Vous devez l'expérimenter personnellement par la foi. Jésus-Christ est notre sauveur, est notre rédempteur. Il est notre sauveur. Il est celui qui nous guérit. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Il est Dieu. C'est ainsi que autrefois déjà, l'homme qui, pour la première fois, n'était pas là lors de la résurrection, n'était pas là comme c'est Thomas. La deuxième fois, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais maintenant, la troisième chose. Christ en nous, ou bien alors Dieu dans son peuple-là, sa parole, vivifiant sa parole, la rendant vivante, faisant ses œuvres parmi les siens, parmi nous. Ça, c'est notre désir. Dieu, dans son peuple, manifesté dans la stature parfaite de Christ, que nous ne sommes plus des enfants qui sont ballottés encore par tout vent de doctrine, mais qui sont affermis dans la foi, qui sont fermes dans les épreuves, que aussi Dieu puisse nous faire confiance, que vraiment la plénitude, comme le jour de la Pentecôte qui s'était répandue, telle qu'elle a été répandue, maintenant à la fin, cette plénitude dans l'Église, soit manifesté, puisse être manifesté. Plusieurs fois, je l'ai déjà dit au Seigneur, nous avons maintenant besoin d'une plus grande manifestation de ta puissance comme elle n'a jamais existé sur terre. Et si parfois je suis touché du fond du cœur, alors je dis au Seigneur, comme aussi je le pense dans mon cœur, et je sais qu'il ébranlera encore le ciel et la terre. Et comme le prophète dit, en ce jour-là, le ciel répondra à la terre. Et cela doit arriver. Dieu aura des hommes sur terre à tel point que le ciel va devoir descendre sur terre et la bénédiction de Dieu parmi le peuple de Dieu sera manifestée. Alors je vous demande de le croire, car c'est vrai. Mon frère aîné dit toujours, Dieu ne m'a pas appelé à prêcher. Mais tout est vrai. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. De croire. Et de tout son cœur, croire. Et quand je dis une phrase importante, il dit, ça c'est vrai. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand des hommes du fond de leur cœur suivent. Et on peut encore formuler, quand il veut encore formuler sa dévra avant, alors il dit, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. On doit réellement suivre du fond du cœur, pouvoir suivre et dire, la parole de Dieu est vraie. Tel que le ciel ne peut pas tomber, ainsi Dieu ne peut pas annuler sa parole. Et si nous sommes la semence d'Abraham, jamais Dieu nous décevra. Nous voulons suivre et marcher comme Abraham a marché. Nous pouvons regarder à nous et dire, bon, en moi, il n'y a rien de bon. en moi, il n'y a rien de bon, c'est vrai. Et je suis un homme comme tous les autres. Ça, c'est une constatation juste. Mais ça ne reste pas à cela. Nous voyons ce que Dieu a fait de nous. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors, Jean dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais quand cela sera manifesté, alors nous lui serons semblables. Amen. Ça, nous le croyons de tout notre cœur et de toutes nos âmes, de toute notre âme. Je voudrais maintenant finir, entendre votre amen. Pour finir, aussi de nous qui sont avancés déjà en âge. Croyez-vous, nous tous qui sommes ici, que maintenant, déjà, nous sommes enfants de Dieu. Dites amen. Je peux vous le montrer des Écritures. Jean chapitre 1. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Avez-vous cru en son nom? Amen. Et vous devenez enfants de Dieu? Amen. Alors nous sommes enfants de Dieu. Cela n'a pas encore été manifesté, ce que nous serons. Que tout lui est soumis sous ses pieds. La mort est encore en train de faire des ravages. L'enfer est en colère. Mais nous voyons aussi celui qui, pour un peu de temps, a été abaissé au-dessous des anges. Et il est écrit, règne parmi tes ennemis jusqu'à que tous tes ennemis soient mis sous ton marchepied. Seront mis sous ton marchepied. Alors subitement, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28 s'accomplit. Mais dès que toutes choses lui seront soumises, le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Laissez-moi lire cela pour que vous puissiez savoir que c'est vraiment écrit cela. Et que cela c'est vraiment été, que c'est vraiment écrit comme ça, pardon. 1 Corinthiens 15, verset 28. Laissez-moi lire cela pour que vous sachiez que c'est vraiment écrit ainsi. Lisons à partir du verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il doit régner comme roi, psaume 110, verset 1, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds, psaume 8, verset 7. Mais lorsqu'il dit ensuite, tout lui est soumis. Mais lorsqu'il dira ensuite, alléluia. Mais lorsqu'il dira ensuite, quand il dira ensuite, tout lui est soumis. Alors, là, on n'aura plus besoin de prêcher. Hein? Alors, c'est déjà là. Alléluia. Oh, loué soit Dieu. Quand il dira, tout lui est soumis. Cela exclut bien sûr celui qui lui a soumis toutes choses. Mais dès que toutes choses lui seront soumises, le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors la désignation Père, Fils cesse. Puis la révélation dans le Fils retourne d'où elle est venue. Et Jésus disait toujours de nouveau, croyez-moi, croyez que je suis sorti de Dieu et retourne de nouveau à Dieu. Il est sorti de Dieu et il a appelé à l'existence une race divine, des fils, des filles de Dieu, une descendance divine pour que l'Écriture s'accomplisse. Voici les enfants, me voici et les enfants que Dieu m'a donnés. Oh, combien d'Écritures on pourrait encore lire, on pourrait encore lire. Mais quand le temps arrivera où il dira, maintenant, toutes choses lui sont soumises à. Ça, ce sera glorieux, majestueux. Ce sera glorieux. Comme on a lu dans 1 Corinthiens 15. Et nous pouvons maintenant déjà nous soumettre à lui. Faire sa volonté. Lui obéir, le suivre, le croire. Et complètement à la fin, je voudrais encore lire une parole adresser une parole à tous ceux qui veulent consacrer, et pardon, à tous ceux qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur. Chaque réunion, dans chaque réunion, n'est-ce pas, elle pourrait signifier la dernière possibilité, la dernière occasion, même peut-être la dernière réunion. Nous pensons à beaucoup. Nous pensons à beaucoup que nous avons vu durant des années. Et subitement, ils n'étaient plus là. Nous pensons à la sœur. Un jour, une heure sera le dernier jour et la dernière heure. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a vraiment fait tout pour nous. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Celui qui se perd et qui périt, le fait de sa propre initiative, parce qu'il ne veut pas être sauvé, c'est tout. Il ne périt pas parce qu'il est né dans le péché et il a péché, etc. Non, il périt parce qu'il a rejeté et n'a pas accepté le salut, l'offre de grâce de Dieu. Jésus-Christ est aujourd'hui ton sauveur. Mets fin à ta résistance intérieure, à ta bataille intérieure, et dis: Seigneur, me voici. Tu t'es révélé à moi. Tu m'as parlé maintenant, ici. Voici ma vie. Et tous ceux qui sont dans les épreuves, à vous, j'adresse Romains 8, verset 28, et particulièrement aussi le verset 33. Tous ceux qui aiment Dieu, toutes choses servent au bien de ceux qui aiment Dieu. La plupart lisent quelque chose à l'intérieur. Ils lisent « doivent servir au bien ». Non, mais c'est écrit pas. C'est pas écrit dans la Bible. C'est seulement écrit que toutes choses servent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas « doivent servir », mais qui servent au bien de ceux que le nom du Seigneur soit loué. Et dans ce contexte, dans Romains 8, Paul dit « qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ?» qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le résultat, nul, zéro et rien, rien, ni la vie, ni la mort, pas les choses présentes ou bien futures, pas les souffrances, rien, 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 rien peut nous séparer, nous qu'avons goûté et expérimenté l'amour de Dieu, rien peut nous séparer de cet amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur, uni avec Dieu, lié avec lui, toujours plus et toujours et pour toujours et éternellement. Loué et exalté soit son Saint-Nom. Amen. Qui était heureux de ce que nous avons été ici. Amen, amen, amen. Nous nous levons encore une fois pour là, pour remercier le Seigneur. Père Céleste, nous savons qu'aujourd'hui, tu es parmi nous. Nous savons qu'aujourd'hui, tu as parlé avec nous. Et qu'aucun homme ne sort de cette salle pour qui il n'y a pas eu quelque chose dans la parole. Il n'y a pas eu une pensée pour lui dans cette parole. Pour chacun, il y avait quelque chose. Aussi pour ceux qui sont fatigués et chargés. Pour ceux qui passent par les épreuves, pour ceux qui sont criblés, pour tout aussi pour les affligés, pour les découragés, il y avait pour chacun, et aussi pour tous ceux qui t'aiment, et ça nous le sommes tous, qui aimons ta parole et qui avons reconnu l'heure et le message et le messager pour ce temps. Loué sois-tu encore une fois. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Comme dans toute la création, toujours de nouveau, tu te manifestes. Tu accordes la vie nouvelle, des fruits nouveaux, la végétation refleurie, ô Dieu Tout-Puissant. Tel que dans la création, aussi en Christ, tu t'es manifesté. Toute ta plénitude s'est répandue en lui. Ainsi, manifeste-toi dans ton Église de la même manière. Mets-nous dans le cœur. Cela, c'est-à-dire ce verset, et vous possédez, Colossiens 2, verset 10, et vous possédez en lui toute la plénitude qui est le chef de chaque domination et de chaque autorité. Le diable n'a aucune autorité. Personne n'est notre chef. Tu es notre chef. Tu as tout pouvoir sur la terre comme au ciel. À toi, nous t'appartenons comme Église. Tu es notre propriété. Tu es le chef de ton corps. L'Église, tu en es la tête. Que tu puisses avoir dans l'Église la première place en toutes choses. Que tu puisses te frayer un chemin. Frayer ton chemin en moi, en nous, pour que je sois obéissant, pour que tu puisses déverser, répandre sur nous comme un fleuve ta bénédiction et que tu puisses se manifester et bénir et confirmer ta parole. Fais la même chose dans tout ton peuple. Et nous te demandons maintenant pour toute l'humanité, pour tous les peuples, les langues et les nations, pour tous les gouvernements, pour toutes les autorités. C'est toi qui établis, qui renverse, selon ton plan pour ce temps. Bénis particulièrement le bloc de l'Est qui a été désavantagé dans plusieurs choses, terrestrement et spirituellement. Que tu puisses là te manifester. Aussi, là, il y a nos frères et nos sœurs qui habitent au bloc de l'Est. Nous les bénissons au nom du Seigneur. Bénis particulièrement le gouvernement à Moscou. Bénis Mr. Gorbachev. Bénis tous, partout. Et nous te remercions aussi pour nos pays, pour la liberté que nous avons ici, pour de ce que nous allons bien et les moyens que tu nous accordes pour que nous puissions servir le monde entier avec la nourriture spirituelle. Tu as particulièrement béni la Suisse et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu l'as conservée pour qu'aucun soldat ait foulé son pied dans ce pays. Oh bien-aimé Seigneur, le monde entier était pris en captivité et la Suisse est restée gardée. Oh grand Dieu, comme une oase. Et ici, tu as envoyé ton serviteur William Branham dans ce pays. Ici, dans le stade, il a prêché. Ici, tu as confirmé ta parole, bien-aimé Seigneur. Et même si cela te plaît, que tu puisses dans cette ville faire le commencement d'une restauration totale de ta gloire et de ta parole. Tu es Dieu. Fais-le comme cela te plaît. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne avec toute puissance. Loué sois-tu dans l'éternité. Amen. Éternellement. Amen.